OK, alors bonjour tout le monde. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va commencer. Bien, Père éternel, on veut te remercier pour cette matinée spéciale pour nous, alors qu'il va y avoir deux jeunes hommes qui vont se faire baptiser tout à l'heure. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu continues encore aujourd'hui partout à travers le monde, à travers les missionnaires qui vont annoncer ton évangile ici au Québec, ici à Longueuil, ici dans notre Église, Seigneur, dans nos familles. Père, on veut te bénir ce matin, puis on veut que tu viennes nous parler de la mission. Viens nous parler, Seigneur, de ton cœur à toi pour la mission, de ton cœur à toi pour les nations aussi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. Alors, bienvenue dans le cours « Que les nations se réjouissent ». On est rendu à la leçon 8 dans le livre. Si vous êtes en train de lire le livre avec moi, c'est le chapitre 5. Je le dis souvent, John Piper est pas... autant c'est un prédicateur qui est facile à suivre dans son écriture, souvent c'est un peu plus lourd, son genre d'écriture, son style d'écriture. Mais honnêtement, plus j'étudie ce livre-là, plus je suis convaincu que c'est vraiment quelque chose de majeur pour comprendre la mission, pour comprendre le cœur de Dieu pour la mission, mais je vous dirais même pour comprendre Dieu, pour connaître Dieu. Le chapitre sur la prière, pour moi, était vraiment génial. Puis ce chapitre-là, le chapitre 5, qui est probablement le plus difficile à comprendre de tout le livre, est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, si vous avez pris le livre, puis vous n'avez pas eu le courage encore de vous lancer dans la lecture, ou vous avez essayé, puis vous avez décroché, moi, je vous encourage à vous y remettre. Puis, si le chapitre est dur à comprendre, relisez-le. Lisez-le une deuxième fois. Peut-être qu'avec, j'espère qu'avec le cours, ça va vous aider à le comprendre. Très brièvement, je vous parle de deux missionnaires qu'on soutient, en fait, Irv Gonski et son épouse. Ce sont des missionnaires qu'on soutient depuis longtemps maintenant. Irv a servi au Pakistan avec son épouse pendant 20 ans. Donc, c'est un frère qui est habitué dans des contextes où l'islam est prédominant, où une autre religion est prédominante. Et puis, ils ont servi là-bas pendant 20 ans. Et ensuite de ça, ils ont transité pour aller servir au Népal. Maintenant, Irv est comme en pré-retraite, d'accord? Donc, il est revenu au pays déjà depuis, j'ai pas vérifié les années, mais probablement pas loin de 10 ans maintenant, qu'il est revenu ici au pays. Mais nous, on continue à le supporter financièrement parce que son ministère maintenant, c'est un ministère de formation particulièrement au Népal. Et donc, il y a un besoin énorme. Par exemple, moi, Irv m'avait offert d'être un des enseignants régulier qui va enseigner là-bas au Népal. À l'époque, il fallait que je choisisse entre mon implication à Sola puis ça. J'ai été convaincu de m'impliquer dans Sola. Mais il y a un besoin énorme sur les champs missionnaires pour avoir des pasteurs et des enseignants qui vont pour former des ouvriers, pour former les gens là-bas. Donc, si on prend le Népal, par exemple, vous l'avez dans vos feuilles, le Népal est passé de 5 chrétiens connus à 1 million de chrétiens recensés, d'accord? Mais 1 million de chrétiens recensés là-bas, c'est une église qui est underground, qui est cachée pratiquement. C'est un pays pacifique, mais en même temps, c'est un pays où le bouddhisme est omniprésent. Et donc, l'église est très, très jeune dans sa foi, très peu instruite dans sa foi. Et il y a un besoin constant pour envoyer des gens comme ça qui vont faire la formation. Cette semaine, j'étais avec mon ami Doug Virgint, à Sola, et puis Doug revenait d'un voyage au Congo. Il est arrivé la semaine dernière. Doug, vous avez déjà entendu Doug prêcher ici, il s'en va vers ses 67-68 ans, je crois. Et puis donc, il est allé au Congo pour enseigner. Il va enseigner dans des plus petites villes, dans des villages, il doit marcher des fois à travers la brousse pour se rendre à l'endroit où il doit enseigner. Et pendant qu'il était là-bas en train d'enseigner, je lui demandais cette semaine, combien t'avais de monde? T'as combien d'élèves qui viennent? Puis notre réunion était dans un local là, qui est plus petit que l'estrade ici, d'accord? Il dit, je pense qu'à un moment, on était presque 200 dans la pièce pendant qu'il donnait son cours, d'accord? Il donne son cours à des pasteurs, puis à des enseignants, puis à des leaders dans différentes villes. À une autre place, ils étaient une centaine. Il est revenu la semaine dernière, puis hier, il m'a envoyé un courriel. Ceux qui suivaient un petit peu l'actualité au Congo, c'est extrêmement violent. Pendant qu'il était là-bas, en fait, pendant 2 jours, il n'a pas pu enseigner. Il appelle ça les journées mortes. C'est les journées où il y a un couvre-feu, tu ne sors pas de chez toi si tu ne veux pas te faire tuer. Parce que le président au Congo est à la fin de son deuxième mandat. Il n'a pas le droit, selon la Constitution, de demeurer, mais il refuse de donner sa démission. Alors, il arme des rebelles pour s'assurer que l'armée ne vienne pas le renverser. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, il ne peut pas payer les rebelles. Donc, il leur donne des armes à feu, puis il leur dit, « Allez-vous payer vous-même dans les maisons. » Fait que, hier, il m'a envoyé un courriel pour me dire que une église a été attaquée et certains des élèves que lui a formés sont décédés avec leur famille. D'accord? Donc, ça, c'est la réalité. Le ministère de Irv, dans un pays beaucoup plus pacifique, le Népal, c'est d'aller là-bas et puis de donner des formations à des pasteurs, à des leaders, à des gens qui sont jeunes dans la foi, mais qui sont des missionnaires. Et puis, il va là-bas pendant 2 semaines, il donne la formation, il va au moins 2 fois par année. Donc, ça, c'est son missionnaire. Alors, c'est très, très précieux. Des ouvriers qui, peut-être, ont plus la santé pour fonctionner à temps plein sur le champ missionnaire, mais qui peuvent faire des allers-retours. Puis, des fois, le coût est cher payé. Doug est revenu avec la malaria de son voyage. Puis, à chaque fois qu'il revient, il est malade pendant plusieurs semaines. Mais Dieu prend soin de ses serviteurs, puis ils sont utiles. Alors, prier pour Irv, c'est vraiment, vraiment un beau ministère. Donc, ce matin, on va attaquer notre prochain chapitre, notre prochaine leçon. Et puis, j'ai pris le temps de vérifier, là, même si je m'étire à l'intérieur des chapitres, on va couvrir toute la matière. D'accord? Alors, on ne va pas couvrir le chapitre 5 au complet ce matin. On va le faire au moins en 2 dimanches, peut-être 3 dimanches, il y a beaucoup de matière. Mais donc pour la semaine prochaine, vous pouvez lire le chapitre 5 dans votre livre si vous suivez avec nous ou le relire. Dieu au cœur de la mission, la nécessité et la nature de la mission. Retrouver la place centrale de Dieu dans toutes les nations. C'est quoi les priorités de Dieu par rapport à la mission? Vous allez voir, on va poser une question très, très, très pratique. Ça va peut-être avoir de l'air théorique, mais dans le fond, c'est extrêmement pratique comme question. Quelles sont les priorités de Dieu dans la mission? Bien sûr, nous pourrions répondre que la priorité de Dieu dans la mission, c'est l'amour. Et donc, poussé par l'amour, Dieu veut que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Est-ce donc l'amour qui définit la priorité de Dieu dans la mission? C'est une possibilité, mais c'est peut-être autre chose aussi. Ça ne sera pas bien long. On est en train d'installer des petites choses pour le baptême. C'est pour éviter que les baptisés fassent... imaginez, j'aime bien l'illustration de John Piper, imaginez qu'il y a 2 navires, 2 bateaux qui font naufrage, d'accord? Peut-être qu'il y a une collision, puis là, les bateaux partent à la dérive. Les 2 navires sont en train de couler à quelques 500 mètres de distance l'un de l'autre. Les gens sont en train de sauter à la mer, ils nagent le temps qu'ils peuvent, il y en a qui sont en train de se noyer. Et puis, il y a des sauveteurs qui arrivent avec des chaloupes de sauvetage. Mais évidemment, ils arrivent d'un endroit particulier, donc ils sont plus près d'un des 2 navires, d'accord? Alors, ils vont rapidement au premier navire où ils peuvent se rendre, et puis ils commencent à rescaper les gens. Il y a des plongeurs qui ramènent les gens aux chaloupes, puis on est en train de monter les gens dans les chaloupes, puis on est en train de les sauver. Maintenant, il y a un des 2 navires qui a été favorisé, parce qu'ils sont arrivés d'un endroit particulier, puis ils sont allés au plus vite où ils pouvaient aller sauver des gens. Puis là, pendant qu'ils sont en train de sauver les gens puis les embarquer dans le navire, ils entendent les cris des naufragés de l'autre paquebot qui est en train de couler, qui sont trop loin pour nager jusqu'aux chaloupes, mais qui sont aussi en train de se noyer, puis qui réclament eux autres aussi d'être sauvés. Qu'est-ce que les sauveteurs vont faire à ce moment-là s'ils sont poussés par l'amour? Merci. Je m'excuse. Qu'est-ce que les sauveteurs vont faire à ce moment-là s'ils sont poussés par l'amour? Est-ce qu'ils vont se dire, mais là, il faut sauver de manière équitable les gens des 2 navires? Fait qu'on va quitter ceux-là parce qu'on en a sauvé, je ne sais pas moi, 30, puis on va aller en sauver 30 de l'autre côté, puis si on a le temps, on reviendra. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si c'est l'amour qui les pousse à faire le sauvetage, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur stratégie? Avez-vous une réponse? Oui. Oui. Définitivement. Donc, on va sauver premièrement ceux qui sont en train de se noyer, qui ne sont pas capables de nager. Puis pour les autres, on va peut-être fournir des bouées. Mais le dilemme demeure entier parce que dans les deux côtés, il y a probablement des gens qui ne savent pas nager. Donc, est-ce qu'ils doivent faire le choix d'être équitables? Logiquement, si moi j'étais là, je dirais, ben, même par le temps que je me déplace pour me rendre à l'autre, il y a encore des gens qui vont être en train de se noyer. Donc, je veux sauver le plus de gens possible. Je vais sauver les plus près de moi en espérant que les autres vont tenir le coup jusqu'à temps qu'on arrive. Parce que si j'abandonne ici puis je m'en vais là-bas, eux autres, c'est sûr qu'ils vont mourir. D'accord? Fait que je suis comme dans une logique de sauver le plus grand nombre. Non? Je vais essayer de sauver le plus grand nombre. Puis on pourrait penser que la priorité de Dieu dans la mission, c'est de sauver le plus grand nombre. Si je l'illustre de manière super pratique, si c'était ça la priorité de Dieu dans la mission, moi je pense que Dieu devrait arrêter d'envoyer des missionnaires au Québec, puis il devrait les envoyer en Amérique latine. Parce qu'en Amérique latine, il y a beaucoup plus d'ouverture à l'Évangile qu'au Québec. Il devrait certainement pas en envoyer en France. Parce qu'en France, il y a beaucoup plus de fermeture à l'Évangile que dans certains pays d'Afrique, où l'ouverture est très, très grande. Moi, je suis impliqué à la Banque alimentaire Bouffe pour tous. Je peux vous dire que lorsque j'annonce l'Évangile à un immigrant, à moins qu'il arrive de pays d'ex-pays communistes, si je parle de l'Évangile à un immigrant, je suis dans un environnement pour prêcher l'Évangile qui est beaucoup plus simple que lorsque je suis en train d'annoncer l'Évangile à un Québécois. Pourquoi? Parce que généralement, les immigrants arrivent avec une vision du monde où la notion de Dieu est évidente pour eux. C'est présent, c'est là dans leur idée. Dieu existe, d'accord? Même lorsque je commence à parler avec un musulman, j'ai plusieurs points en commun avec lui que je n'aurais pas avec bien des Québécois. Parce que le musulman est convaincu que Dieu existe, que Dieu est juste, puis que Dieu va juger les méchants. Oh, déjà, j'ai plein de choses qu'avec plein de Québécois, on n'a pas. Parce que quand je parle avec un Québécois, c'est pas sûr que Dieu existe. Puis Dieu est beaucoup plus amour que juste, puis il va certainement pas le juger, lui, en tout cas. D'accord? Et donc, si je voulais juste être stratégique et sauver le plus grand nombre, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait concentrer tous nos efforts dans les régions du monde qui sont plus ouvertes à l'Évangile, puis avec les ressources qui nous restent après, on pourra se rendre dans les autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Si notre objectif, c'est de sauver le plus grand nombre. Il me semble que ce serait plus stratégique, non? Ça n'a pas l'air de vous plaire comme idée. Ça ne vous excite pas, on dirait. Alors, c'est quoi la priorité de Dieu dans la mission? Est-ce que la parole de Dieu répond à cette question-là? Et définitivement, elle y répond, puis avec une réponse qui va probablement vous surprendre. C'est sûr que l'illustration des deux paquebots a ses limites, parce que Dieu n'a pas les limites que des sauveteurs auraient. Dieu est tout-puissant, il peut agir comme il veut. Mais en même temps, la réalité, c'est que Dieu a décidé de se servir de l'Église. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, et puis lorsqu'on a commencé la leçon, on a vu ensemble la nécessité de prêcher Christ pour voir des gens venir à Jésus-Christ. Et donc, Paul va dire comment vont-ils croire si personne ne va annoncer l'Évangile. Et donc, dans ce sens-là, Dieu a choisi de travailler avec des ressources limitées, des ressources humaines, qu'il envoie pour annoncer l'Évangile de Christ. Fait que même si l'illustration n'est pas parfaite, il y a quand même plusieurs éléments qu'on peut prendre là. Si Dieu voyait les choses autrement, à la page 3, Dieu estime peut-être que le but de l'opération de sauvetage devrait être de rassembler des pécheurs sauvés parmi tous les peuples du monde. Des deux paquebots, si je reste avec mon illustration. Même si certains sauveteurs doivent être naufragés, doivent être délaissés, doivent délaisser un peuple déjà atteint pour aller accomplir leur mission sur un terrain peut-être moins favorable, au milieu d'un peuple non atteint celui-là. Quand je vous dis que c'est une question pratique, c'est une question éminemment pratique parce que l'Église mondiale s'efforce à envoyer des missionnaires dans certains pays musulmans actuellement où c'est extrêmement dangereux d'aller annoncer l'Évangile là-bas. Si notre objectif, c'est de sauver le plus grand nombre, et que nos ressources financières et nos ressources humaines sont limitées, faire l'effort pour aller là-bas, ça ne peut pas être la motivation. Il y a une autre motivation que celle-là. D'accord? Parce qu'il y a d'autres places où c'est beaucoup plus facile de faire ça. Par exemple, je vous dis, c'est des questions qui sont pratiques. Par exemple, on a plein de musulmans qui viennent étudier dans nos universités occidentales. Peut-être qu'on devrait concentrer toutes nos énergies là, parce qu'il y a plein de gens qui viennent pour faire des études et qui retournent dans leur pays d'origine après et qui peuvent repartir avec l'Évangile. C'est définitivement une stratégie que l'Église universelle, l'Église mondiale utilise. On le fait. Mais est-ce que ce ne serait pas plus bright de faire ça? D'autant plus que si tu es en train de dire que ces gens-là partent de ces pays-là pour s'en venir étudier, on peut présumer que lorsqu'ils vont retourner, ils vont faire partie de l'élite intellectuelle du pays. Hey, si tu gagnes l'élite intellectuelle du pays à l'Évangile, puis ils retournent avec l'Évangile dans leur pays, c'est génial. Ben, on a déjà compris ça. C'est sûr qu'on est intentionnel à ce niveau-là, au niveau de l'Église mondiale. D'accord? Mais on devrait se concentrer là plutôt qu'envoyer des missionnaires qui essaient de rentrer dans un terrain, dans un territoire où ils vont être illégaux dès qu'ils vont se mettre à annoncer l'Évangile, puis ils vont mettre leur vie en péril. Puis pourtant, l'Église décide de continuer à faire ça. D'où ça vient ce raisonnement-là? Est-ce que ça viendrait de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu? Ainsi se pourrait-il, au milieu de la page 3, que le but de la mission de Dieu ne soit pas simplement de sauver le plus grand nombre d'individus? Et si l'Écriture nous disait que la priorité de Dieu était d'avoir des rachetés, des rescapés de toutes les ethnies de la terre? Et si Dieu avait pour priorité d'envoyer des missionnaires au loin de nous, alors que tant de nos proches sont encore à sauver pour Christ? Parce que la priorité était d'envoyer des missionnaires en terrain souvent plus hostile à l'Évangile. Donc, moi, je l'ai entendu de manière concrète dans l'Église. Yannick, pourquoi est-ce qu'on investit de l'argent pour envoyer des missionnaires à l'étranger, alors que le Québec a moins de 1% de chrétiens évangéliques? Le Québec est une des régions dans le monde les moins atteintes avec l'Évangile. Ça, c'est la vérité. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que nous, on mettrait de l'argent pour envoyer des missionnaires dans d'autres régions alors que tout cet argent-là pourrait être investi ici? Est-ce qu'on n'a pas premièrement une responsabilité chez nous? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Est-ce que la vision de s'investir dans la mission à l'extérieur viendrait de Dieu? Je vais vous donner ça. C'est une bonne question. Je vais vous donner ça. Je vais vous donner l'opinion de la parole de Dieu, puis on en déduira que c'est la mienne. Si mon argument est bien appuyé dans la parole de Dieu, ça sera à vous d'en juger. En 1974, c'est juste pour vous dire que c'est pas des questions niaiseuses, d'accord? C'est des questions auxquelles même l'Église a été aveugle pendant longtemps. En 1974, au bas de la page 3, Ralph Winter, au congrès mondial de Lausanne, où des chrétiens de partout dans le monde, de plein de dénominations, viennent faire une espèce de bilan de l'évangélisation dans le monde. Donc, en 1974, Ralph Winter a déclaré ceci, puis ça a complètement bouleversé la vision, je dirais, planétaire du mandat. Il a déclaré ceci au bas de la page 3, vous avez une citation. « Bien que l'Évangile soit entré dans tous les pays du monde, 80% des non-chrétiens n'ont toujours pas accès à l'Évangile en raison de barrières non pas géographiques, mais culturelles et linguistiques. » Et donc, l'idée, c'est que lorsqu'on étudie la planète Terre, si vous prenez un pays comme la Russie peut couvrir un grand nombre d'ethnies avec un grand nombre de langues. Il y a des secteurs de l'Afrique ou à l'intérieur d'un territoire qui, nous apparaîtrait petit si on prend la proportion du Québec, admettons, d'accord? Puis on dirait, c'est pas rendu au Québec, peut-être qu'on vit ça, au Canada. Est-ce que tous les Amérindiens, dans leur langue, ont reçu l'Évangile? Donc, si on dit, est-ce que le Canada est atteint avec l'Évangile? Bien, comme territoire politique, géopolitique, il est atteint. Le Canada est atteint avec l'Évangile. N'importe qui cherche sur le web au Canada va pouvoir trouver des ressources. Mais en même temps, c'est peut-être pas n'importe qui. Parce que ça dépend quelle langue tu parles. Et si tu fais partie d'une tribu amérindienne où il n'y a pas de missionnaires qui sont allés, qui a traduit des portions des Écritures, qui est allé annoncer l'Évangile dans leur langue, peut-être que ces gens-là n'ont pas accès à ça. D'accord? Et si certains d'entre eux ne parlent pas couramment l'anglais, peut-être qu'ils n'ont pas accès à ça. Et donc, lorsqu'on commence à étudier la planète Terre, puis à la regrouper en termes d'ethnie, de culture et de langue, en 1974, le bilan qu'on pouvait faire, c'était que 80% la population mondiale n'était pas atteinte avec l'Évangile. Même s'il y avait des missionnaires dans tous les pays du monde. Est-ce que vous suivez l'équation? Ça veut dire qu'il y a des pays du monde où un groupe ethnique n'était pas du tout atteint avec l'Évangile. Et donc, le livre dont on a fait la promotion il y a quelques semaines, là, puis on va avoir une table de livres à tous les mois. Si vous ne l'avez pas acheté lorsqu'on en a fait la promotion, Pray for the World, vous pourrez l'acheter à la prochaine fois, parce que peut-être que vous allez réaliser l'importance de chercher à prier pour la mission, mais de prier aussi de manière intelligente pour la mission dans le monde, en priant pour différents pays, différents groupes ethniques, pas seulement des territoires géopolitiques. Si vous le désirez, vous pouvez aussi aller chercher l'application. Il y a une application web. Moi, je l'ai sur mon iPhone. C'est gratuit. Et puis, moi, j'ai un rappel à tous les jours. Donc, à tous les jours, j'ai un nouveau groupe ethnique dans le monde qui m'est présenté, comme dans le livre. Et à travers ça, j'ai des informations à savoir, est-ce que ce groupe-là, c'est quoi la population? Donc, hier, je priais pour un groupe, 1 300 000 personnes. L'Évangile n'est pas traduit dans leur langue. D'accord? Aucun des quatre évangiles est traduit dans leur langue. Donc, ils ne peuvent pas lire la Bible dans leur langue. Le territoire est essentiellement musulman. Donc, il y a quelques chrétiens. On sait qu'il y a des chrétiens qui sont là, mais ils ne peuvent pas s'afficher. C'est déclaré comme un peuple non atteint pour l'Évangile. Ralph Winter a amené l'Église en 1974 à prendre conscience de cette réalité-là. C'est que notre vision du monde n'était peut-être pas la vision du monde que Dieu avait, puis notre vision du mandat qui nous était donné n'était peut-être pas la vision de Dieu. On s'était concentré à atteindre tous les territoires géopolitiques dans le monde, sans nécessairement être en train d'essayer d'atteindre toutes les ethnies dans le monde. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas clair dans ça? Vous avez besoin que je clarifie un peu. Vous comprenez à quel point ça change la donne, ça? Le défi est complètement différent. C'est complètement différent. Quelques 15 ans plus tard, en 1989, Ralph Winter a pu déclarer « Maintenant que le concept des peuples non atteints s'est répandu très largement, il est possible dès à présent de faire des projets avec beaucoup plus de confiance et de précision. » Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a des organismes missionnaires qui ont travaillé à se doter de définitions plus claires pour essayer de voir, OK, comment est-ce qu'on se partage ce mandat-là? Et vous avez une définition au haut de la page 4 qui est un peu technique, là, mais quand même, ça éclaire. Une ethnie, ils vont le définir comme ça, c'est un groupe d'une taille significative dont les individus se perçoivent comme ayant une affinité les uns avec les autres du fait d'avoir une langue commune, une religion commune, une appartenance ethnique, une caste, une situation ou une combinaison de plusieurs de ces traits distinctifs. Donc, c'est un groupe qui est défini par plusieurs de ces éléments-là. Le groupe le plus important au sein duquel l'Évangile puisse se répandre en tant que mouvement d'implantation d'Église sans rencontrer de barrières de compréhension ou d'acceptation. Et donc, on a cherché à identifier tous les groupes ethniques dans le monde où on aura besoin, par exemple, de traduire les évangiles dans leur langue, d'aller les rejoindre dans leur culture à eux, parce que si j'atteins le peuple qui habite 50 km plus loin, le groupe ethnique qui habite 50 km plus loin, l'évangile franchira jamais la barrière. À moins qu'il y ait quelqu'un là-bas qui décide d'aller s'intégrer dans cette culture-là. C'est une autre culture, ils sont à 50 km, mais il n'y a pas de communication entre ces deux groupes-là. Tous ceux-là pourraient devenir chrétiens, ça ne veut pas dire qu'il y en a un ici qui veut devenir chrétien. D'accord? Il va falloir qu'il y ait des missionnaires qui se rendent là-bas pour traduire, pour aller vers eux, pour percer les barrières culturelles qui font opposition, qui font obstacle à l'Évangile. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que cette réflexion-là vient de Dieu ou est-ce qu'on devrait chercher juste à sauver le plus grand nombre? On va commencer ce matin à regarder où est-ce qu'on voit ça dans les Écritures, puis quelle est la pensée de Dieu. Puis une des choses que j'ai beaucoup aimé à travers ce chapitre-là, c'est que là, lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, puis à quel point on voit que dans l'Ancien Testament, la passion de Dieu, la vision de Dieu pour le salut des nations, pas juste d'Israël, était vraiment présent. C'était vraiment là, c'était dans le cœur de Dieu. Et Dieu envoyait son Fils. Son Fils allait venir pour cela. D'accord? Mais on va commencer à regarder ça ensemble ce matin. Alors, la mission la plus célèbre au haut de la page 4, voici donc la question, est-il juste d'une perspective biblique de dire que la mission de l'Église est d'atteindre tous les peuples non atteints de la terre, ou ne serait-il pas prioritaire de sauver tout simplement le plus grand nombre de personnes possible? Est-ce que les Écritures disent quelque chose sur ça? Est-ce que la Bible répond à cette question-là? Les ressources humaines et financières étant limitées, bien que les ressources divines ne le soient pas, la réponse à cette question dictera les stratégies missionnaires sur le plan mondial. Si Dieu ne tient pas à ce qu'il y ait un salut parmi toutes les ethnies de la terre, on change notre stratégie. On s'en va dans les territoires les plus ouverts où on peut être le plus efficace puis sauver le plus grand nombre de personnes. Si Dieu veut qu'on atteigne toutes les ethnies, on fait des sacrifices énormes pour atteindre des peuples qui n'ont jamais été atteints avec l'Évangile ou qui ne sont pas atteints actuellement avec l'Évangile. Matthieu 28, 19 et 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce mandat-là est pour l'Église jusqu'à la fin du monde. Donc, le mandat est encore pour nous aujourd'hui et pour tous les chrétiens, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la prière, dans l'évangélisation, dans le soutien financier, dans la formation de disciples dans notre Église locale ou en partant en mission, jusqu'à la fin du monde, ça va être notre mandat, d'accord? Maintenant, le mot qui est là, lorsque vous avez le mot « nation », « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », »,« allez, faites de toutes les nations des disciples », lorsque nous, on entend ça, on peut facilement penser à des territoires géopolitiques, non? Des pays. Aller vers tous les pays. Moi, je peux facilement entendre ça. Le mot grec qui est là, c'est ethnos. D'accord? C'est pas un pays dans le sens géopolitique. C'est ethnos qui est là. C'est une ethnie. Et puis, on va voir ensemble que Dieu désire non pas que tous les drapeaux géopolitiques de la terre soient représentés au ciel, mais Dieu désire qu'il y ait des gens de toutes les ethnies et de toutes les langues qui célèbrent l'Évangile pour l'éternité, qui célèbrent Christ pour l'éternité. Le Seigneur nous a-t-il commandé d'atteindre tous les pays du monde ou toutes les ethnies du monde? Telle est la question. Et on va commencer par l'Ancien Testament, puis en fait, ce matin, on va probablement s'en tenir à l'évidence qui nous vient de l'Ancien Testament. En fait, ouais, c'est là qu'on va s'arrêter. Commençons par les promesses qui sont données. Évidemment, la promesse faite à Abraham. Dans Genèse 12, 1 à 3, voici ce qui a été dit à Abraham. Et c'est un des passages les plus cités dans le Nouveau Testament par les apôtres pour définir la mission. D'accord? C'est clair dans la théologie du Nouveau Testament que les apôtres voyaient dans cette promesse-là donnée à Abraham le mandat missionnaire de l'Église. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Puis on retrouve la même promesse formulée dans d'autres mots, dans plusieurs autres passages dans la Genèse où cette promesse-là est rappelée. Et là, on est dans l'Ancien Testament, on est dans la Genèse, donc on est plutôt dans une langue hébraïque. On n'est pas dans le grec, donc ce n'est pas le mot « ethnos » qu'on va trouver là. Mais le mot qui est là pour « famille » parle de petite unité, l'équivalent d'un clan, d'accord? Quand il parle de famille, il n'est pas en train de parler de notre vision occidentale de la famille, une famille nucléaire, un père, une mère, des enfants. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Il est en train de parler de clan, de tribus, de regroupement, d'accord? Et donc, on a l'équivalent de ce que nous, on concevrait comme une ethnie ou quelque chose comme ça. Le Nouveau Testament cite à plusieurs reprises cette promesse. Par exemple, en Galates 3, versets 6 à 8, Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et donc, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Paul est en train de le résumer ici. C'est vraiment intéressant parce que dans ce passage-là, il y a à la fois le salut individuel. Il dit « Abraham a été sauvé par la foi ». De la même manière, ceux qui vont être sauvés par la foi. Ça, implicitement, il y a un salut individuel. Ce matin, on va baptiser deux personnes qui ont fait le choix personnel de s'identifier avec Jésus-Christ. On ne va pas les baptiser en vertu de la foi de leur ethnie. On ne va pas les baptiser en vertu de la foi de leur famille. On va les baptiser en vertu de leur foi à eux en Jésus-Christ. Donc, il y a ça ici dans ce que Paul est en train de dire. Abraham a été sauvé, lui, parce qu'il a cru. Mais à travers lui, Dieu va bénir toutes les familles de la terre. Toutes les ethnies de la terre vont être bénies à travers la foi d'Abraham, parce que l'Évangile va faire quoi? Mais Paul est en train de nous dire, c'est ça qu'on est en train de faire, là. On est en train d'accomplir, Dieu est en train d'accomplir à travers nous la promesse qu'il a faite à Abraham, de bénir toutes les familles de la terre à travers l'Évangile qui est en train de se répandre à travers le monde, qui est en train de se répandre à travers le monde. Et donc, je vais terminer avec ceci. Je vais vous faire une longue lecture que je vais très peu commenter. Mais pour moi, ça me faisait du bien parce que on est dans l'Ancien Testament, puis on voit dans l'Ancien Testament, d'accord, le cœur de Dieu pour le salut des nations. Souvent, on regarde dans l'Ancien Testament, puis humainement, encore une fois, on se dit, c'était quoi cette stratégie bizarre-là pour sauver les hommes d'avoir comme un une petite nation microscopique au Moyen-Orient qui est là et qui va incarner les vérités de Dieu sur place. Maintenant, il faut aller dans les psaumes, puis il faut entendre le cœur de Dieu, puis vraiment son désir. Alors, l'espérance des nations. Si on veut percevoir toute la portée, je suis haut de la page 6, du grand ordre de mission tel qu'il fut donné par Jésus et mis en œuvre par les apôtres, le meilleur moyen de s'immerger dans l'atmosphère d'espérance que l'on pouvait ressentir, c'est en lisant la Bible de l'époque. Souvent, Piper, il n'est pas simple dans ses phrases, là. Quand Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », le Nouveau Testament n'est pas écrit. Les quatre évangiles ne sont pas écrits. Puis donc, l'Église du départ, lorsque Jésus monte au ciel, puis ils partent, c'est quoi leur Bible? C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament pour qu'il soit inspiré à aller vers les nations? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament pour qu'ils comprennent que ce mandat-là que Jésus donne, lorsqu'il dit « Allez, faites de toutes les nations », Jésus sort ça d'où, cette vision-là? Et je vais vous lire plein de versets. « Racontez sa gloire parmi les nations. » Psaume 9:12. « Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. » Publié parmi les peuples, c'est au fait. Psaume 47:2. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Et le terme peuple qui est là, c'est la multitude, d'accord? C'est pas le peuple d'Israël. Psaume 66:8. Peuple, bénissez Dieu, faites retentir sa louange. Il y a une vision prophétique dans ces psaumes-là. Psaume 96:3, « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Psaume 96:7, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Le mot « famille des peuples » qu'on a ici, c'est la même chose qu'on a dans Genèse 12. « Toutes les familles de la terre seront bénies. » Mais là, c'est comme si c'est une vision prophétique. « OK, toutes les familles des peuples, allez-y, louez l'Éternel. » Psaume 96:10, dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Psaume 105, 1, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Psaume 117, 1, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe 12:4, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel. Invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Ésaïe 34:1, approchez nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. La théologie que Paul va développer dans le Nouveau Testament, c'est que les temps n'étaient pas accomplis. Et lorsque les temps ont été accomplis, Dieu nous a envoyés pour accomplir la promesse faite à Abraham. D'accord? Et donc, ce qu'on voit ici, c'est une vision prophétique de ce qui va se réaliser. Des nations marcheront à ta lumière. Psaume 2, 8. Demande et je te donnerai les nations pour héritage. Le psaume 2, c'est un psaume messianique. C'est un psaume où Dieu, le Père, est en train de parler à Dieu, le Fils. Vous irez lire le psaume 2. Et voici une promesse que le Père donne au Fils. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Ce n'est pas juste Israël. Psaume 45, 18. « Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. » Ça veut dire que dans l'éternité, il va y avoir des gens, des peuples qui vont être là pour louer l'Éternel. Psaume 47, 10. « Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. » Moi, j'ai l'impression d'entendre Romain ici. « Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. » Psaume 86, 9. « Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendront gloire à ton nom. » Psaume 87, 6, « L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. » Psaume 102, 16, « Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. » Psaume 102, 23, « Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. » Psaume 111, 6, « Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. » Ésaïe 11, 10. En ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ce matin, soyez bien attentifs à la fin du message, la fin d'Éphésiens 2. D'accord? Paul est en train d'affirmer que c'est ça qui s'est accompli dans l'Église. Éphésiens 3, on va être encore dans la même thématique. Les temps sont accomplis et Dieu est en train de réaliser cela. Ésaïe 49, 6. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener le reste d'Israël. » C'est pas suffisant. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe 66, 18, 19. « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. » Ça peut pas être beaucoup plus clair que ça, d'accord? « Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échappée vers les nations. À Tarsis, à Pul, à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal, à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. » Toutes les langues. Que les peuples te louent, ô Dieu. Je ne vais pas lire tout le passage, c'est vraiment trop long dans Ésaïe 66. Vous prendrez le temps de le lire. Psaume 72, verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Psaume 72, 17. Son nom subsistera à toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Toutes les nations le diront heureux. J'achève. Je te louerai parmi les nations. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je chanterai à la gloire de ton nom. Psaume 18, 50. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Psaume 57, 10. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations. Psaume 108, 4. Qui est une vision où l'Évangile est chanté partout sur la terre. La semaine prochaine, on va terminer cet argument-là. Parce qu'on va aller voir comment est-ce que ça s'est traduit dans la vision missionnaire de Paul. Qu'est-ce que Paul a compris de ça? Qu'est-ce qui va faire que Paul va établir une église dans une région, puis avant même qu'elle soit complètement établie, il va quitter puis il va aller ailleurs. Puis avant même qu'elle est terminée, il va quitter puis il va aller ailleurs encore. Et qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de sa vie, il va dire, tout le territoire que Dieu m'avait donné a été atteint avec l'Évangile, alors qu'ils sont encore très, très peu de chrétiens. Comment est-ce que ça va se traduire dans la vision missionnaire de l'apôtre Jean, dans l'Évangile de Jean, lorsqu'il rapporte les paroles de Jésus, puis comment est-ce que c'est illustré dans le livre de l'Apocalypse? Comment est-ce que l'Apocalypse nous parle d'une priorité missionnaire qui est d'aller vers toutes les ethnies de la terre? J'espère que ça va vous inspirer à prier pour justement que Dieu envoie des missionnaires vers les territoires les plus difficiles à atteindre. Que ça va vous inspirer peut-être à un appel missionnaire vous-même. Et peut-être pas un appel missionnaire où l'Évangile semble prospérer le plus facilement, le plus rapidement possible, mais où le travail va être très difficile et où il y a des vies qui sont abandonnées simplement pour atteindre une ethnie, pour atteindre un groupe qui parle une langue qui n'a pas été atteint avec l'Évangile. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur, pour moi, étudier ça cette semaine, c'était réaliser encore un peu plus comment ta vision à toi n'est pas ma vision à moi. Comment, Seigneur, ta perspective à toi, dans les cieux, dans l'éternité, la vision que tu as de la condition humaine et de ta gloire pour l'éternité, n'est pas ma vision, Seigneur. Et j'ai besoin de ta parole pour m'éclairer, Seigneur. Père, je veux te remercier et je veux te bénir pour les millions de missionnaires qui ont quitté leur confort, leur foyer, pour partir. Certains d'entre eux ont quitté la France pour venir au Québec. Certains d'entre eux ont quitté des provinces du Canada où il était beaucoup plus facile d'être chrétien pour venir ici. D'autres sont partis des États-Unis pour venir ici, Seigneur. Et d'autres sont partis du Québec pour aller dans toutes sortes de régions de la terre. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes courageux, courageuses qui quittent le confort de leur foyer pour que ta gloire puisse être proclamée, que tes louanges puissent être chantées dans les cieux pour l'éternité, dans toutes les langues de la terre. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.